C'est l'heure de Café Polar. Catherine Fruchon-Toussaint. Nathalie Amar.
Et Catherine Fruchon-Toussaint, on découvre avec vous cette semaine le roman Meurtre en 5 actes. On imagine qu'il va se dérouler dans l'univers du théâtre.
Et vous imaginez bien, Nathalie, je vous emmène en effet au théâtre, mais dans les salles parisiennes du XVIIe siècle, l'époque de prédilection de l'autrice Hélène Claire Murgier, qui, quand elle n'écrit pas des romans policiers, elle est musicienne et joue du clavecin.
Magnifique, c'est elle qu'on entend ici dans cet extrait ?
Oui, dans ce concerto de Vivaldi qu'elle a interprété, mais elle a aussi mis en scène des opéras, elle est également librettiste, directrice artistique de plusieurs compagnies. Autant dire qu'elle a un profil plutôt atypique dans l'univers du roman policier, pourtant elle le confesse, la chose criminelle l'intéresse beaucoup. Hélène Claire Murgier.
Parce qu'il y a quelque chose dans le fait divers qui m'échappe complètement. C'est-à-dire que la vie de quelqu'un peut basculer. Aussi, les raisons pour lesquelles des gens vont avoir envie de tuer me semblent complètement invraisemblables. Et ça m'intéresse de comprendre comment, en fait, on en arrive à vouloir tuer quelqu'un pour des raisons, de financières, pour des raisons de vengeance et tout. Et comme c'est quelque chose qui m'est très loin, en fait, je ne comprends pas bien, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait que quelqu'un va avoir envie de passer à l'acte ? Et voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la curiosité, en fait, de ma part.
Et cette curiosité, elle l'assouvit donc en écrivant des romans policiers, car ce n'est pas son premier, Catherine.
En effet, c'est le 4e volume d'une série qui met en scène le lieutenant Jacques Chevassu, policier à Paris. C'est un enquêteur assisté d'un second, Philippe Demey. Deux hommes mesurés, sérieux, qui se comportent même avec beaucoup de civilité dans leurs interrogatoires, ce qui pourtant n'était pas vraiment répandu à cette époque, comme le rappelle Hélène Claire Murgier.
En fait, en découvrant la justice de cette époque, justement, il faut se souvenir qu'il y avait encore le gibet de Montfaucon, qui existait encore, qu'on voyait à cette époque-là encore, qui était un endroit où on pendait les gens qui étaient condamnés à mort.
On a pendu avec ce type.
Et c'était une justice d'une cruauté épouvantable, notamment avec l'utilisation constante de la question. La question qui était c'était vraiment
une torture
épouvantable, qui sont à la limite du supportable parfois quand on lit ce qui était fait. Et dans Abbesse, dans le premier, mon lieutenant criminel l'utilise quand même, un peu la question. Et puis finalement, je me suis dit qu'il fallait que j'ai un lieutenant un peu plus humain, un peu plus humaniste, qui rejette la torture. Ce qui est intéressant, c'est de voir en fait que c'est à la fois il y a très longtemps et en même temps à l'échelle finalement de l'histoire, c'est relativement près de nous finalement. Et donc la manière dont la justice était faite à cette époque-là interroge aussi sur la manière de donner la justice, de faire la justice à travers l'époque.
Et voilà, le décor est posé. Paris, au début du XVIe siècle, avec deux policiers qui se retrouvent ici face à une série de meurtres dans le milieu du théâtre.
Oui, c'est un milieu où on croise même le jeune Corneille, d'ailleurs, qui écrivait des comédies. Alors donc, nous sommes en 1631 exactement. Le roman s'ouvre sur la découverte, lors d'une représentation, d'un corps de comédien retrouvé mort sur scène, poignardé. Il a donc été assassiné en direct, en tout cas face au public, et à un moment où les acteurs étaient nombreux et en train de virevolter avec leurs masque, c'était la mode déballée et pourtant personne n'a rien vu. Et à peine l'enquête commence que la même scène se répète dans un autre théâtre, une série de meurtres qui paraît inexplicable, rivalité entre troupes de comédiens, fanatisme contre les acteurs qui à cette époque étaient frappés d'infamie civile, donc non reconnus par l'église. Bref, toutes les hypothèses sont envisagées et parmi les suspects, un homme, Théophraste Renaudot, qui a réellement existé. Il a d'ailleurs laissé son nom à un prix littéraire célèbre aujourd'hui, le Renaudot. Mais au début, c'était un médecin et il a même été considéré comme l'inventeur du journalisme en France. Hélène Claire Murgier nous raconte comment il est passé de l'un à l'autre.
Théophraste Renaudot était adepte d'une médecine moderne. moderne pour l'époque, mais enfin qui s'éloignait quand même de tout ce qui était la saignée. Et quand on lit un tout petit peu, j'ai lu un tout petit peu ce qu'il a écrit sur la médecine, c'est vrai que ça se rapprocherait un tout petit peu plus de la médecine de maintenant, dans le sens où il utilisait des médicaments, il y avait quelque chose d'un petit peu plus, d'un peu moins inhumain, on va dire. Et parallèlement à ça, il avait envie d'aider les pauvres notamment, donc il a d'abord créé le Monde Piété, créé le premier bureau d'adresse.
Et... Rappelez-nous quand même, quel était le principe de ce bureau d'adresse ?
Alors, le bureau d'adresse, il a réalisé qu'en fait, il fallait mettre à la fois des gens qui cherchaient du travail avec des gens qui cherchaient des ouvriers, par exemple. Donc, c'était la première fois qu'il y avait ce qu'on peut appeler le pôle emploi. C'est-à-dire, des gens venaient, disaient, j'aimerais, être ouvrier, je suis capable d'être charpentier. Et des gens venaient en disant, on cherche un charpentier, et il les réunissait. Et donc, c'est dans cet environnement-là qu'il a décidé de faire sa gazette, qui était là pour parler de ce qui se passait, alors à la fois en France, mais aussi en Europe. Et Théophras Renaudot est considéré comme un des premiers journalistes de l'histoire moderne.
Et Catherine, sur la couverture du roman, très belle, on voit le visage d'une femme qui se cache à moitié derrière un masque. Il y a aussi des personnages féminins dans Meurtre en 5 actes ?
Oui, au moins deux, dont l'autrice fait un portrait très attachant d'ailleurs. Il y a une jeune femme mariée à un vieux barbon qui se prend d'amitié pour une jeune actrice qui, elle, essaye de faire sa place au théâtre. Or, à cette époque, c'était très rare. On les comptait même sur les doigts de la main. Hélène Clermurgier.
Oui, alors on les compte sur les droits de la main parce qu'elles n'ont pas le droit d'aller sur scène. D'ailleurs, elles n'avaient pas le droit d'aller sur scène non plus dans le théâtre de Shakespeare. Donc ça, j'ai découvert. Et j'avais envie d'interroger en fait dans le livre un tout petit peu, alors sans rien dévoiler, mais un peu le fait que les femmes étaient parfois obligées de se grimer, peut-être parfois de se cacher, d'être plutôt en homme pour pouvoir exercer certains métiers. Alors, il y en avait quelques-unes, il y en avait deux, trois là, qui ont réellement existé, mais effectivement très très peu, parce que les femmes qui étaient comédiennes étaient vraiment considérées comme des prostituées, c'était vraiment très très mal vu. Il y a quand même toujours eu cette petite notion de ces femmes qui avaient beaucoup de liberté et qui avaient aussi un grand recul par rapport à la religion, qui semblait libre, disons, par rapport à une époque qui était quand même très corsetée.
Catherine, vous avez savouré les références aux Français telles qu'ils se parlaient au XVIIe siècle et que l'autrice restitue.
Oui, avec beaucoup de subtilité, bien entendu. L'écriture ici est très fluide. Mais en effet, Hélène Clermurgier, ci et là, glisse des mots oubliés de nos jours ou mieux nous montre combien le vocabulaire a évolué. Alors, je vous donne un exemple. Bougre, à cette époque, désignait un homosexuel. Le terme homosexuel n'existait pas. Il y avait encore un tabou dans la société. Et donc, on disait à la place bougre et bougresse, alors qu'aujourd'hui, c'est un terme un peu familier, mais qui n'a plus du tout la même connotation. Autre exemple, la nourriture et des plats dont certains intitulés ont totalement disparu de notre langage. Ici, on déguste des pets de putain glacés qui sont un dessert à base de blanc d'œuf et de sucre. Et d'ailleurs, à la fin du roman, il y a une liste de quelques recettes que les personnages du roman ont dégustées pendant l'enquête. J'ai demandé à Hélène Clermurgier pourquoi elle avait tenu à les ajouter.
Je me suis rendu compte que quand je lis un livre, j'aime relativement bien quand le romancier ou la romancière m'amène à table et me fait déguster quelque chose.
Bonjour ma voisine, bonjour mon voisin, je n'ai point de pain, mais j'ai de la farine.
Et en lisant en fait les recettes qui sont vraiment de cette époque-là, hein, ce XVIIe siècle, alors déjà les titres m'amusaient, et puis je me suis dit, il faudrait d'ailleurs que j'essaie d'en faire, hein, pourquoi pas.
Parce que vous n'avez pas essayé ?
Non, je n'ai pas encore essayé.
Vous vous invitez à les tester, mais il faut les tester aussi.
Voilà, exactement. Mais j'aimerais bien le faire avec... j'ai une idée avec des amis de faire ça, justement. Et en fait, c'est un moyen aussi de montrer qu'on mangeait pas tout à fait les mêmes choses, qu'il y avait un rapport à la nourriture un peu différent, mais il y avait quand même ce plaisir de faire des... Enfin, je trouve ça assez appétissant, en fait, la manière dont c'est décrit. Il y a quelque chose d'assez généreux.
Voilà, un roman aussi divertissant qu'instructif et dont l'intrigue est d'ailleurs à la fois machiavélique mais aussi très moderne. Bref, c'est un plaisir à ne surtout pas bouder. Je rappelle son titre « Meurtre en 5 actes » de Hélène Clermurgier qui a été publié dans la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Et vous saurez tous sur les coulisses de ce livre en écoutant le podcast du Café Polar.